marcher avec le Seigneur. Hein? Ça fait toute la différence au monde. Parce qu'il y a un danger de rester dans un esprit religieux. Il ne faut pas oublier, finalement, que beaucoup de gens, si on ne développe pas vraiment une communion avec le Seigneur, c'est dangereux de rester dans une illusion. Vous vous rappelez quand Jésus a rencontré Nicodème? Nicodème, c'était quand même pas n'importe qui, hein? Un théologien de l'époque. Même, il y a une certaine humilité, le monsieur. C'est une sommité de l'époque chez les religieux. Et il vient voir le jeune prédicateur d'à peine une trentaine d'années, qui vient en plus d'une région, finalement, du Nord, négligée, méprisée, la Galilée. Et il s'en vient l'encourager. Mais Jésus, finalement, ne perd pas le but premier. Jésus ne cherche pas de l'approbation, de l'auto-justification. Il nous manifeste ce que c'est d'être, au fond, appelé du Père. Tout sauvé, toute personne régénérée est une personne appelée par Dieu. Quand Dieu appelle, il justifie. Et le danger, finalement, qu'on peut avoir, c'est d'essayer de se faire une vie pour trouver par nous-mêmes notre justification par les choses qu'on fait. Des très bonnes choses. Nicodème, c'est quelqu'un de très bien, mais Jésus, finalement, va tout de suite arriver aux vrais besoins. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Donc, vraiment, le but, c'est d'être une nouvelle création par la nouvelle naissance. Et donc, c'est important, on n'est pas sauvé par les œuvres. Ça, il faut vraiment se le rappeler sans arrêt. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par une foi réelle. Faites attention, parce qu'il peut y avoir un genre de foi intellectuelle des fois. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord que Dieu existe. Ils vont dire, oh, la Bible, c'est bien. Mais leur vie, est-ce qu'ils ont vraiment rencontré le Seigneur? Est-ce qu'ils ont vraiment reçu le don de la vie éternelle? Jouez pas avec ça. La parole de Dieu nous met en garde, nous autres les pasteurs et les anciens, dans l'Épître aux Hébreux à la fin, au chapitre 13. Un jour, je vais comparaître bientôt devant le Seigneur. Parce que je vieillis, là. Je suis content aussi en passant. Je vais comparaître devant le Seigneur un jour pour rendre compte de tous les gens qui a amené. Puis il y a bien du monde qui ont passé devant mon pupitre depuis 78. Il y en a même qui sont ici dans l'Assemblée aujourd'hui qui n'étaient même pas nés dans ce temps-là encore. Mais toute ma vie, quand mon pasteur en France me dit que Dieu m'appelait et qu'il a prié pour moi pour me mettre à part, et que plus tard, finalement, avec Greater Grace, a été confirmé par leur ministère, j'ai été ordonné d'eux autres. Je vais être honnête avec vous autres. Là. J'en ai parlé un petit peu avec les anciens un matin. Là. Un de mes plus grands soucis, un de mes fardeaux les plus énormes, est-ce que je suis sûr que vous êtes tous nés de nouveau? C'est pour ça que, peut-être des fois je suis plate un peu quand je nous rappelle qu'on est pourris. Là. Il y en a qui sont tannés, qui sont plus capables de l'entendre ça. Peut-être parce qu'ils sont trop pourris et les oreilles se décollent à force d'entendre ça, je ne sais pas, tu sais. Mais le but, finalement, de notre salut, c'est de voir de plus en plus que sans l'œuvre de Jésus-Christ, sans lui, on est totalement perdu. Et ce n'est pas n'importe quoi être perdu. Le Seigneur nous parle pour ceux qui auront négligé un si grand salut, comme l'Épître aux Hébreux le dit. Comment échapperons-nous? Et savez-vous à quoi le Seigneur veut qu'on échappe? Il y a un jugement qui s'en vient. Tous les êtres humains vont être jugés. Comme on finit le credo qu'on a résumé, finalement, les doctrines les plus essentielles, là, tu sais, le fameux « Je crois en Dieu », ça finit en disant « Il va revenir, le Seigneur Jésus, pour juger les vivants et les morts. » C'est facile pour nous, chrétiens, de souvent parler du jugement de ceux qui auront négligé le Seigneur. Mais on oublie que nous aussi, en tant que croyants, la manière qu'on va vivre notre vocation après d'être racheté et pardonné, justifié, on a une vocation à vivre. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, vous avez remarqué, il donne beaucoup d'instructions pour savoir comment marcher avec le Seigneur. Donc, marcher avec le Seigneur, ça se développe. Comme Paul va dire à Timothée, exerce-toi à la piété. Est-ce qu'il y en a des fois ici qui vont s'exercer au gym? Si on va s'exercer au gym, si on fait de l'exercice, c'est pour essayer de développer notre capacité de se maintenir en santé, de mettre les avantages de notre côté physiquement, pas vrai? Bien, spirituellement, c'est la même chose. On a finalement à maintenir notre santé, notre vigilance spirituelle. Parce que le salut en Jésus-Christ, ici et maintenant, puisqu'on est, on n'est pas dans un programme pour être sauvé, on n'est pas sauvé par les œuvres. On est maintenant sauvé par pure grâce. Il nous a appelés, et quand Dieu appelle, il justifie. Et quand il justifie, il glorifie. Alors finalement, maintenant qu'on est racheté, si vous êtes né de nouveau, eh bien, c'est pour une vocation. Ce n'est pas n'importe quoi. On est appelé à une vocation. Je n'ai pas accepté le Seigneur dans ma vie pour que ça, je ne sais pas, je puisse avoir une meilleure vie humaine. Même si, honnêtement, il a béni énormément ma vie. Comme je pense la plupart d'entre vous, beaucoup ont été bénis, pas vrai, de croire dans le Seigneur. Beaucoup de choses nous sont arrivées qui est venu confirmer que vraiment il nous a rachetés. Ça, c'est rassurant. Mais en même temps, c'est pour nous rappeler qu'on n'est pas là pour nous en ce moment. Aussi bizarre que ça puisse paraître, là. On est là, finalement, pour ceux qui sont dehors et perdus. Et pour ceux à l'intérieur, de s'édifier les uns les autres. On est là ensemble pour rayonner l'œuvre de Christ. Donc, c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit quelque chose d'assez intéressant au chapitre 9. Pas l'Apocalypse, excusez. Il nous rappelle finalement que dans le temple de la première alliance, il dit donc la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Et dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Et derrière le second voile se trouvait, derrière le second, c'est-à-dire dans la deuxième partie, le voile se trouvait une partie du tabernacle appelée le lieu très saint, ou le lieu des saints, saint des saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums. Ça, on va expliquer pourquoi plus tard il a mis l'autel de l'autre côté du voile, quand en réalité il était en avant du voile. On va le voir plus tard. Mais là, pour aujourd'hui, j'aimerais juste revenir sur un point, le chandelier. Maintenant, j'ai pris beaucoup d'informations sur un auteur que j'aime bien, M. Arthur Pink. Il dit finalement, le principal obstacle sur le chemin de la foi des Hébreux était leur incapacité à percevoir tout ce qui était lié à la loi cérémonielle. Par exemple, le temple, la prêtrise et les sacrifices. C'était un type ou une image dans la signification et dans sa valeur. Parce qu'un type, une image, c'est pour indiquer ce qui doit venir, le réel quand il va venir. En d'autres mots, tous les types de l'Ancien Testament ne sont pas le réel. Le tabernacle était une image, fais-le selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Et puis la prêtrise, celle d'Aaron, est encore une fois un type, une image d'une vraie prêtrise. Celui de Jésus-Christ qui est auprès de Dieu maintenant, et l'apôtre Paul nous rappelle qu'il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et son sacrifice est le véritable. C'est lui qui a donné sa vie en rançon pour tous ceux qui vont venir au Père que par lui. Tous les autres agneaux qu'on a sacrifiés pendant plus d'un millénaire, c'était juste des images à chaque année qui rappelaient la promesse, toujours. Et qui rappelait cette fête à la Pâque, que Dieu avait sauvé, par exemple, son peuple d'Égypte par pure grâce. Ce n'est pas par leur mérite. Il n'y avait pas de religion, les Juifs, à l'époque. Il y avait juste une promesse qui avait été faite à Abraham. Ce que vous réalisez, finalement, quand ils étaient en Égypte, ils étaient juste des gens qui se rappelaient peut-être en chantant, je ne sais pas comment il faisait, mais il se rappelait simplement la fameuse promesse qu'ils sont un peuple mis à part, une alliance que Dieu a faite avec leur ancêtre Abraham, et qu'un jour, le Seigneur va venir les libérer d'Égypte. Il l'avait promis à Abraham 400 ans plus tôt. Alors, quand ce fut le moment, bien, le Seigneur les a délivrés et il a manifesté sa présence d'une manière absolument incroyable. Donc, pour nous, il y a un danger. Hier, j'étais à des funérailles d'un ami, et puis dans une église catholique. Puis ce qui je trouvais triste un peu dans tout ça, c'est que durant la cérémonie, il y a des passages bibliques qui étaient lus, par exemple Romains 8. Tu sais, il y a des vérités qui sont dites. Mais tout le scénario, toute l'impression, tu sais, il y a des fois, il y a des gens qui ont le don de prendre certains faits pour les orienter d'une certaine manière pour vous faire croire d'autres choses. Vous vous rappelez quand Dieu a demandé à Adam, « As-tu mangé l'arbre que je t'avais défendu? » C'était oui ou non, mais il n'a pas répondu oui ou non. Il a pris des faits. « La femme que tu as mis auprès de moi m'en a donné à manger, j'en ai mangé. » Donc, il donne des faits pour faire de la femme le bouc émissaire et blâmer le jugement de Dieu. « Hey, tu étais supposé dire que ce n'était pas bon pour moi d'être tout seul. Ben voici le cadeau que tu m'as donné, il est empoisonné. » Alors, finalement, quand j'étais dans cette église-là hier, tout du bon monde, tu sais, j'étais content de revoir, c'est un peu proche de ma famille à Cartierville, mais tout le cérémoniel, ça me brisait le cœur. Tellement qu'à un moment donné, j'étais assis, puis je me suis retenu. Là. J'avais le goût de me lever en disant, « Monsieur le curé, excusez, vous vous trompez, là. On va tu sais. » Parce que quand il dit, nous faisons le sacrifice de l'Église. Non, non, il a été fait une fois pour toutes. Moi, vous donnez le passage, si vous allez le dire. C'est comme, il y a pas une rage en dedans de moi, mais comme en disant, quand est-ce qu'on va revenir aux Écritures? Mais en tout cas, ce qui était positif, quand même, j'étais content de revoir bien des amis, puis en espérant qu'on puisse en reparler pour les amener de plus en plus dans ce que le texte dit. Faites attention de ne pas confondre l'image avec la réalité. L'auteur ici, il nous parle de plusieurs choses qu'il y avait dans le temple. Dans le lieu saint, il dit qu'il y avait d'abord le chandelier, il y avait aussi la table des pains de proposition, et il y avait aussi l'autel de l'encens. Mais ça, on va comprendre pourquoi il cite ça après. Mais j'aimerais juste qu'on revienne finalement plutôt au premier. On va juste regarder le chandelier aujourd'hui. Maintenant, le chandelier est un type d'une réalité qui devait venir. Certains auteurs pensent que le chandelier représente Jésus. Mais Pink n'est pas d'accord avec ça. Puis je suis un petit peu d'accord avec lui là-dessus. Il dit non. Il dit, Jésus, c'est Dieu qui est venu rendre le Dieu invisible visible. Il s'est déclaré être la lumière du monde. La vie était la lumière du monde. Il y avait une lumière dans le temple. N'oubliez pas, dans le temple, il n'y avait pas de fenêtre. Hein? Aucune lumière naturelle pouvait entrer dans le temple. Dans le lieu, finalement, où les prêtres pouvaient rentrer tous les jours pour faire le service, qui était un peu, on pourrait dire, le lieu de la communion, il y avait le fameux chandelier. D'accord? Mais de l'autre côté du voile, le Seigneur, finalement, rappelle à Moïse de rappeler à Aaron, son frère, d'entrer là juste une fois par année avec le sang, afin de ne pas mourir. Le Seigneur lui-même manifestait sa présence par une lumière inaccessible dans le lieu très saint. Et cette lumière est venue dans le monde en se voilant. Et c'est pour ça que quand Christ a été crucifié et qu'il est mort, il a défait un type, un symbole. Quand il a pris finalement le pain pour dire « Ceci est mon corps qui va être rompu pour vous », il rappelle finalement que c'est son sacrifice qui va accomplir parfaitement tout ce qui était typique dans le temple. Et quand il est mort, le voile, qui était en passant pas juste une petite toile de rien, là, c'était un moyen tapis, là, tu sais, il s'est déchiré du haut jusqu'en bas pour montrer une chose. Maintenant, la lumière du monde, comme Jésus l'avait averti à ses propres disciples, Jean va beaucoup travailler là-dessus, surtout dans son évangile. Jean nous rappelle que Jésus leur disait « Je suis la lumière du monde. Marchez avec moi pendant que la lumière est avec vous. » mais il était voilé de sa chair, comme dans le temple. Mais quand Christ est mort, il a déclaré avant de mourir à ses disciples, « Marchez avec la lumière pendant que je suis là, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Et quand il est mort, eh bien finalement, et qu'il y a eu son ascension, la lumière est partie du monde, et Jésus le dit, « Le monde ne verra plus jamais la lumière. » Quand Christ est parti, il a averti clairement, et ça va être la nuit éternelle. On est dans un monde que, selon les Écritures, même si le soleil se lève, là, on est dans un monde de ténèbres. On est dans un monde qui est, c'est la nuit. Même la parole de Dieu appelle les gens non régénérés, non sauvés, les enfants de la nuit. Et les enfants de Dieu qui sont rachetés, sauvés, régénérés, ils nous appellent comment? Les enfants de lumière. Vous êtes du jour, il dit. Et maintenant, un chandelier. Quand est-ce que tu allumes ça, un chandelier? Quand il fait noir. La nuit. Alors, finalement, Jean, il va prendre plusieurs illustrations dans l'Apocalypse. Et une des plus belles, pour représenter l'Église, comment il nous représente avec les sept Églises? Sept chandeliers. Et ce n'est pas une bonne traduction, chandelier, parce que chandelier, ça veut dire chandelle, puis le chandelier, il n'y avait pas des chandelles de cire, OK? Est-ce que vous vous rappelez comment le chandelier illuminait? C'était l'huile d'olive. Et l'huile, ça représente quoi? Comme type encore? L'onction, oui, mais le Saint-Esprit. Maintenant, si le Seigneur est parti du monde, toute Église qui marche avec le Seigneur, il faut marcher avec le Seigneur. Parce que, n'oubliez pas, le lieu où le chandelier était mis, ce n'était pas dans le lieu très saint, c'est dans le lieu saint. Le lieu où il y avait l'activité. Et nous, si on se tourne vers le Seigneur, on va venir rayonnant de sa lumière. Et si on apprend à marcher avec le Seigneur et de garder une communion avec le Seigneur, parce qu'oubliez pas, vous, une fois sauvé, une fois racheté, une nouvelle création, vous ne pouvez plus être perdu. Vous êtes vraiment racheté une fois pour toutes. Ça marche? Par contre, notre vocation, c'est d'être un chandelier. Et ça veut dire la communion que nous entretenons présentement, individuellement et collectivement avec le Seigneur, va faire qu'une Église va plus ou moins rayonner de la même manière qu'un individu peut plus ou moins rayonner. L'apôtre Paul dit « J'ai traité durement mon corps ». Il s'est mis sur une discipline de vie absolument incroyable, cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il dit aux Corinthiens, « Afin que, après avoir prêché aux autres, je ne veux pas être moi-même rejeté. » Il ne parle pas de son salut, il parle de sa vocation. Combien, par exemple, je ne sais pas, même notre génération, on a connu une couple, des prédicateurs qui attiraient des multitudes. Je ne sais pas, les swaggers et d'autres, là, tu sais, qui ont été, semblent avoir été utilisés par le Seigneur. Des multitudes sont venues les écouter. Mais est-ce qu'ils ont tous réussi leur vocation? Non. Parce qu'à un moment donné, ils se sont négligés. Et ils ont été pris finalement dans des fautes assez graves. La sexualité, l'argent sont des idoles mentionnées à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, typifiées. C'est des tentations parce que la sexualité et l'argent, c'est deux pièges qui nous donnent l'impression que c'est par l'argent ou par la sexualité qu'on va trouver de la vie, un sens à notre vie. Mais c'est les deux moyens où beaucoup de gens se perdent. La même chose avec le pouvoir. Donc, moi, je pense que l'apôtre Paul traitait durement sa vie, son corps, parce que si un homme avait été privilégié pour servir le Seigneur, c'est bien lui. Mais le Seigneur savait très bien que « compte jamais sur toi-même ». Tu sais, comme on l'a chanté tout à l'heure, « Je compte sur Christ ». L'apôtre Paul, il a même eu le privilège, c'est assez rare ça, qu'un prédicateur a ça, là, tiens, de finir son cours biblique finalement au ciel direct, dans 2 Corinthiens chapitre 12. Paul s'est retrouvé un jour au troisième ciel pour voir et entendre des choses qui ne se répètent même pas. Il n'y a pas de mots pour ça. Mais quand il est redescendu dans la vraie vie qu'il vivait tous les jours, le Seigneur lui a envoyé un messager de Satan pour qu'il soit frappé à tous les jours, humilié continuellement, afin que, parce qu'un des dangers, c'est l'orgueil, l'arrogance, et de faire de l'Église souvent sa propre entreprise. Quand vous entendez un pasteur parler un peu trop, « mon monde, mon Église », allez l'avertir en disant « calme-toi le pompon, chum ». D'abord, ce n'est pas ton monde. À ce que je sache, il y a juste le matin quand tu te rases que tu t'es coupé un peu de sang. Ce n'était pas pour nous autres. Fait que celui à qui on appartient, c'est Christ. Fait que calme-toi le pompon. Mais trop souvent, il y a des gens qui en font après ça leur dynastie personnelle. Ce n'est pas notre entreprise. C'est l'Église de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rachetés par son propre sang. Et il nous confie les gens après ça pour qu'on s'en occupe, afin d'amener les gens à maturité, pour que, découvrant après ça leur vocation, leur appel, leur portion dans le corps de Christ, ils puissent discerner les œuvres auxquelles Dieu les appelle. Je dis, ce n'est pas n'importe quoi. C'est énorme. On a une vie particulière parce qu'il y a un danger. Trop souvent, on cherche une vie pour nous autres encore. Mais ça y est, nous autres, c'est réglé le problème. Si on a cru en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, et si on a appris à marcher avec lui et qu'il a confirmé qu'il nous a vraiment rachetés, parce que le Saint-Esprit verse en nous l'amour de Dieu, et il va finalement développer la relation rétablie entre nous et Dieu, et c'est pour le connaître afin de le faire connaître. Donc, le chandelier ici, là, il était fait d'une manière spéciale aussi. Est-ce que vous vous rappelez comment il était fait? Pardon? Oui, le menorah, comment il était fait? Oui, c'est vrai, il était fait de sept branches. Trois, trois, une dans le milieu. D'une pièce, comment? Oui, c'était en or. Contrairement à tous les autres meubles qui est en place, faits avec du bois d'abord, couverts d'or après, lui, il était d'or pur. C'était, dans le sens, un morceau énorme d'or, et il était fait martelé. Il a été martelé. C'est sûr que les artistes qui l'ont fait devaient être carrément dirigés par Dieu, parce que pour faire ça, tu dois être habile, pas à peu près. Pour faire ça, il est martelé. Il n'est pas, contrairement au veau d'or, où est-ce qu'il y avait un moule et ils ont mis finalement l'or dedans pour que ça fasse la forme d'une vache, parce que quand Dieu était insulté pas mal, il a dit à Moïse, oui, ils ont fait une image de moi, ils m'ont fait comme une vache qui mange de l'herbe. C'est insultant un peu, ça, tu sais. Imagine-toi si quelqu'un fait le portrait de vous puis il vous dessine en gros cochon. Donc, contrairement à l'idole qui est coulée dans un moule, il devait prendre finalement un talent d'or et il était frappé. Et Jésus-Christ nous a montré comment marcher avec lui. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est rappelé, il a appris l'obéissance comment? Par les choses, les souffrances qu'il a subies. Parce que dans les souffrances, dans les manquements, que tout le monde cherche à fuir, soit par l'argent, soit par la sexualité, soit par le pouvoir, soit par les privilèges, eh bien, c'est dans la souffrance, dans le manquement, qu'on va apprendre à connaître le Seigneur pour savoir comment on transfère notre espérance en nous-mêmes et dans nos avoirs pour vraiment apprendre à dépendre du Seigneur. C'est quelque chose qu'on apprend un petit peu à tous les jours. Et ce n'est pas quelque chose que vous devez juste lire dans un livre. C'est le fun de lire ça dans un livre. Mais en réalité, si tu l'as lu dans un livre, très bien. Maintenant, es-tu prêt à tous les jours à le vivre? Comment on s'attend au Seigneur en fonction de ce qu'il a promis être pour nous? Je ne peux pas être un témoin à moins de le connaître. Mais pour le connaître, lui, le sauveur, ben, c'est en me sauvant. Pas vrai? Les gens du monde, ils vont vous parler d'eux-mêmes, de leur réussite, de leurs accomplissements, parce qu'ils ont besoin de se donner un sens à leur vie. Le chrétien, finalement, il ne parle pas de ce qu'il a fait. Il va toujours vouloir parler de ce que Christ a fait, que ce soit par lui, que ce soit par les autres, peu importe. Nous, on a reçu l'appel du Seigneur. Il a dit trois choses. Tu sais, il y a une foule à un moment donné qui voulait suivre Jésus. Mais regardez bien, il voulait suivre pas le vrai Messie. Il voulait suivre celui qui fait du pain à volonté, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui rend, tu sais, dans le sens... Il était plus que de l'argent, Jésus. Mais Jésus voyait que ces gens-là n'avaient pas compris du tout le but des miracles. Et c'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, « Non, non, parce que même ces deux, vous vous rappelez, Jacques et Jean, la maman de Jacques et Jean, qui était une madame qui avait du cash, elle subventionnait les voyages de Jésus, elle était gentille, il n'y a pas de problème, elle était gentille. N'oubliez pas, faites attention à votre gentillesse dans votre tête, on peut tous être bien gentils. Mais tant que le Seigneur ne nous délivre pas, il ne donne pas finalement vraiment un éclairage clair, elle a dit finalement à Jésus, « Quand tu vas rentrer dans ton règne, tu peux-tu te rappeler de mes deux fils? » Elle joue un petit peu en essayant de faire sentir Jésus coupable en disant, « Qui c'est qui a payé le gros de tes voyages, toi-là? Tu pourrais-tu faire un petit retour, s'il vous plaît? » Mais c'est le fun parce que Jésus, tu ne peux pas l'acheter. Ça, c'est trop trippant avec Jésus. Confiez-vous à lui. Dites-y tout ce qu'il y a dans votre cœur parce qu'au moins lui, il ne sera jamais infecté par vos niaiseries. Jamais on pourra le gagner de notre côté. Toujours lui va nous gagner de son côté pour qu'on marche dans la vérité avec lui. Ça, c'est vraiment rassurant. Alors, il dit non, ils ne savent pas de quel baptême il doit être baptisé. Puis il leur dit, pensez-vous être capable? Oui, oui. Oui, oui. Ben oui, tu sais, ils l'ont juste lu dans la Bible, ça. Puis le dernier baptême qu'ils ont vu, c'est un gars qui met dans l'eau pour qu'on le sort de l'eau. Non, il dit, ils vont être massacrés. Vous voulez vraiment me suivre? Il n'y a pas de problème. Vous allez marcher maintenant dans un monde qui m'a rejeté et la lumière part du monde. Et maintenant, je vais vous placer dans le monde comme des chandeliers. Et comme ils m'ont attaqué, ils vont vous attaquer. C'est pour ça que l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de faire attention. Devenez pas chrétien pour avoir la plus belle vie au monde sur terre. Devenez, oui, tournez-vous vers le Seigneur pour marcher avec lui, mais réalisez où vous allez marcher. Vous allez marcher au milieu de ses ennemis. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ, pour vrai, en d'autres mots, seront persécutés. Alors, finalement, le chandelier, comme Jésus nous a montré lui-même pour être, au fond, dans le sens, il a appris l'obéissance par la souffrance, et il va nous rappeler à nous la même chose. Est-ce qu'à tous les jours, j'apprends de plus en plus à moins compter sur les gens et surtout à moins compter sur moi? Et ça ne veut pas dire d'être passif, ça. Activement, comment j'apprends à me confier dans le Seigneur? Comment j'y fais connaître tous mes besoins? C'est lui qui me dit, fais-moi connaître tous tes besoins, décharge-toi sur moi de tous tes soucis, car moi-même prends soin de toi. OK, on va apprendre ces choses-là. Un petit peu à tous les jours. C'est une chose d'entendre la théorie, mais c'est une deuxième chose. À tous les jours, on va avoir des occasions de se confier dans le Seigneur ou bien de continuer de vivre notre ancienne manière. Alors, finalement, moi, je pense qu'on a quelque chose, un trésor énorme ici. Si on est pour être un chandelier, prions le Seigneur qu'on soit de plus en plus lumineux. Parce que faites attention, il dit à une certaine église, à l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse, si tu ne reviens pas à ton premier amour que tu as perdu, c'est une église qui avait de très bonnes doctrines, des bonnes œuvres, ça allait très bien, mais ils avaient perdu leur premier amour. Et le Seigneur dit, retourne à tes premières œuvres. Sinon, une conséquence va arriver à Éphèse. Qu'est-ce que dit à cette église? Sinon, j'enlèverai ton chandelier. Il y a des pays qui ont brillé. Pensez à ce pays, l'Asie mineure aujourd'hui, savez-vous c'est où? C'est en Turquie. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Église de Christ qui brille tellement fort en Turquie. En Égypte, au début de l'ère chrétienne, il y a eu des églises qui ont rayonné dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est les ténèbres. Ils sont persécutés. Que ce soit le Liban ou que ce soit encore un peu vers la Syrie, est-ce que vous réalisez que c'est ces gens-là, des gens de la Syrie, entre autres, comme, comment ils s'appelaient, Potin et puis Irénée, ont été envoyés pour évangéliser la Gaule. Ils arrivaient dans des pays barbares et ils ont péri. Ils l'ont fait, dans le sens, quand ils partaient, c'était un billet aller seulement. Le billet retour, c'est au ciel. On peut juste demander au Seigneur une chose. Si on est là pour toi et tu veux qu'on rayonne vers ceux du dehors, en tant qu'Église, Seigneur, on va prier comme tes apôtres ont prié. On est tout aussi peureux qu'eux autres. Ça ne nous tente pas de souffrir, mais on ne veut pas être infidèle. C'est trop facile de jouer à la grosse pute. Hein? Les églises peuvent être des grosses putes. On peut devenir des grosses putes. Désolé pour les madames, là, il y a des putes gars aussi. Là. On est capable finalement de se vendre aux plus demandants. Mais moi, je trouve une chose qui est très bonne pour les chrétiens, assister le plus souvent possible à des enterrements. Ça va vous rappeler le vôtre bientôt. Puis, allez pas juste en disant, « Oh, c'est rien que les vieux qui meurent. » Non. Il n'y a pas d'ange pour partir. Et dites-vous une chose. Moi, je veux comparer devant le Seigneur, puis je lui demande régulièrement, vu que tu es Dieu, pour toi, il n'y a rien d'impossible. Même de prendre un insignifiant comme moi, tu peux-tu finalement, par toute ta puissance, Seigneur Dieu, s'il vous plaît, me faire marcher avec toi? Je peux juste compter sur toi. Je ne peux pas compter sur moi. Tu le dis toi-même, Seigneur, tu le dis toi-même à tes propres disciples. Le jeune homme riche, là, c'était quelqu'un de bien plus capable que les apôtres. C'est un petit gars solide, il a un moral fort, il suivait la loi de Dieu, et il est assez éclairé pour réaliser, « J'ai pas la vie éternelle. » Qu'est-ce qui manque pour avoir la vie? Quand il vient au Seigneur, il demande. Je veux dire, c'est un gars qui a, tu sais, il y a des gens qui sont nés plus riches que d'autres dans leur tempérament, dans leur personnalité. Pas vrai? C'est vrai, il y a des gens qui sont nés avec des bons caractères, qui sont gentils, sont capables d'en prendre, puis il y en a d'autres qui sont nés en criant. Pas vrai? Mais, peu importe comment on est né, le Seigneur nous a donné une super leçon. Il a dit au jeune homme, « Vends tout ce que tu as, après ça, suis-moi. » Il a capoté bien raide, le petit gars. Mais c'était pour donner une leçon à ses disciples. C'est dur pour un riche d'entrer. Parce que même Pierre a dit, « Mais attends, qui c'est qui peut être sauvé? » Jésus, c'est impossible de votre côté. Vous ne pouvez pas marcher avec moi. C'est impossible. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pour ça qu'il faut apprendre, au travers de toutes nos faiblesses, de tous nos manquements, comment on va sans arrêt se lancer sur lui pour dire, « Apprends-moi à marcher avec toi, à dépendre de toi tous les jours. » Et d'abandonner les anciens moyens qu'on avait, les formes de richesse qu'on peut avoir. Le jeune homme riche, il avait du cash, mais en plus, il avait une personnalité plus forte, moi, je suis sûr que Pierre, Matthieu. Il y avait même un qui s'appelait Jude, pas juste Judas. Jude, c'est un ancien, finalement, zélote. Vous savez, c'était des zélotes à l'époque? Un terroriste, je veux dire, c'était un moyen agressif, là, tu sais. Et puis Matthieu, lui, c'était un vendu, il travaillait pour les Romains. Imagine-toi le petit groupe le soir quand ils se rencontraient. Matthieu qui mange à côté de Jude. Tu ne penses pas que Jude, il n'a pas en main, qu'il a le goût de partir d'en face de l'autre? Ils sont restés du vrai monde, ces gars-là. Et eux-mêmes ont dû apprendre à abandonner ce qu'ils sont pour apprendre à marcher avec le Seigneur. Le Seigneur dit, si vous voulez me suivre, chargez-vous de votre croix. En d'autres mots, prenez à tous les jours ce qui rappelle votre condamnation. Je sais que la plupart des gens veulent fuir ça, parce que Jésus dit, je suis venu dans le monde. La lumière est venue dans le monde pour éclairer le monde. Mais qu'est-ce que le monde a préféré? Les ténèbres. Les gens veulent fuir la lumière parce que la lumière va mettre en lumière qu'on est finalement mauvais. Mais on ne veut pas le voir, ça. Et on vit dans une génération qui est encore de plus en plus, qui veut absolument penser qu'on est tout bon, bon, bon. Et le Seigneur dit, non, si tu veux me suivre, prends ta croix tous les jours. Vois finalement à quel point tu es perdu. Et plus on va marcher dans la lumière, plus on va réaliser que même servir le Seigneur, en disant, écoute Seigneur, à moins que tu nous appelles à tes œuvres, même te servir devient encore un moyen pour moi de me distinguer des autres. Pardon. Et puis, finalement, le Seigneur dit, tu te charges de ta croix. Deuxièmement, tu vas te renier. Ça, c'est le fun, ça, se renier. Le Seigneur dit, je t'aime. Puis, en dedans de toi, là, qu'est-ce que tu sens? Je ne le sens pas que tu m'aimes. Bien, renie-toi. Renie, finalement, ce qui dit en toi que Dieu ne t'aime pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu nous aime vraiment. Je sais, des fois, c'est dur à croire que Dieu nous aime, mais il nous aime. Il n'est pas juste bon qui est capable de nous endurer parce qu'il est bon. Il y a un amour véritable pour nous autres. Et si on ne se nourrit pas de cet amour, ça ne nous détachera pas d'essayer de mériter puis de charmer. Mériter et charmer puis manipuler, là, c'est quelque chose qu'au milieu du peuple de Dieu doit être banni complètement. Le seul moyen de laisser tomber toute la forme de manipulation, de charmer les gens, c'est de vraiment découvrir l'amour de Dieu pour nous. Et après ça, on va apprendre à aimer comme nous-mêmes on est aimés. Sincèrement, comme Paul dit, aimez-vous de manière sincère. Ça veut dire qu'on peut s'aimer de manière hypocrite. Donc, la lumière. Les gens préféraient les ténèbres. Nous, on est dans la lumière, mais faites attention, on peut perdre cette lumière-là. Il nous est rappelé une chose, puisque maintenant on est réconcilié à Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, le don de Dieu, le Saint-Esprit nous a été donné. Maintenant, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes habité, si vous êtes né de nouveau, du Saint-Esprit? Faites attention de juste vivre sa théorie. Est-ce que, finalement, ce que vous apprenez les Écritures, ça réveille en vous, finalement, cette conscience que vous êtes habité par le Saint-Esprit de Dieu afin de développer une relation? Ça, ça veut dire garder votre conscience propre. Garder votre conscience pure. Nourrissez-vous des paroles de Dieu. Et troisièmement, aimez-vous les uns les autres. Apprenons à nous aimer, même si des fois, ce n'est pas facile. On va lui demander toutes ces choses-là, qu'il nous l'apprennent. Il nous habite. Le Saint-Esprit nous habite. C'est pour ça que maintenant, faites attention. Puisque l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la famille, nous habite, si on est né de nouveau, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, je suis désolé, vous avez beau être religieux, vous avez beau faire ce que vous voulez, ça ne changera rien. Tournez-vous vers le Seigneur en disant, « Seigneur, si je n'ai pas ton Esprit, ça veut dire que je ne t'appartiens pas. » Une manière aussi de savoir si vous appartenez au Seigneur, selon Hébreux 12, qu'est-ce qu'un père qui aime ses enfants fait? Il les éduque et il les corrige. Un père qui aime ses enfants, il va être concerné à amener ses enfants à être éduqués, développés, pour qu'ils puissent rentrer dans la vie le mieux équipé possible. Pas vrai? Eh bien, si vous êtes vraiment né de nouveau et que vous vivez en cochon, bien, je suis désolé, vous êtes en train de vous faire accroire des histoires, là. Tournez-vous vers le Seigneur pour vous. Demandez-y. Demandez-y à lui. Il n'y a rien que lui qui peut répondre à ça. Est-ce que vous êtes réellement né de nouveau? Si tu vis n'importe comment et tu penses finalement que tu es né de nouveau et que tu n'as aucune discipline de la part de Dieu, jouez pas avec votre salut là-dessus. Faites attention. On est des pros pour se raconter des histoires qu'on veut croire. Il faut aller au Seigneur. Toujours. Et au début, ce n'est pas agréable, parce qu'en réalité, il va démolir les idoles dans notre vie, dans lesquelles on se confiait avant, pour être quelqu'un, pour de plus en plus nous donner une vraie restauration, un vrai pardon, une vraie communion avec lui. Moi, là, je devrais rendre compte au Seigneur de tous ceux qui sont passés à l'Église. Je veux être sûr que tout le monde a entendu clairement le salut. Je veux être le plus responsable possible. Puis je sais, finalement, des fois, je joue ma paye à tous les dimanches. Non, il y a des gens qui taillissent, là. Moi, j'en ai eu plusieurs qui m'ont eu en chemin. Ils bloquent leur dîme, puis ils parlent contre moi dans l'église, ils essaient de tout détruire. Hey, on s'en va, on va le sacrer dans la rue. Bon, je dis, Seigneur, je suis content d'être de plus en plus vieux, je suis de plus en plus proche de la maison. J'ai-tu hâte de rentrer chez nous? Ça ne va pas être béni, ça? En plus, on va tous se reconnaître sans la chair. On va se trouver bien agréable quand on va se voir de même. On n'aura plus notre chair. Donc, pour l'instant, l'Église est un chandelier. Et ça, pour le chandelier qui soit bien formé, il doit être fait frapper pour être fait pour, après ça, recevoir l'huile du Saint-Esprit en vue d'éclairer. Donc, c'est pour ça que, est-ce qu'on désire se remettre vraiment au Seigneur, à ce qu'il continue à nous former toujours par sa parole, parce que c'est sa parole qui est la vérité, c'est comme ça qu'il nous sanctifie, c'est comme ça qu'il va nous instruire ce qu'on doit savoir, et le Saint-Esprit va illuminer la parole dans notre entendement, et l'illumination de l'entendement, comme il est marqué dans Éphésiens chapitre 1, eh bien, c'est en vue finalement, est-ce que je sais comment prier après? C'est la prière de la foi que Dieu répond. Ce n'est pas une prière finalement avec incantation continuelle. Il y en a qui pensent que prier par la foi, c'est de fatiguer le Seigneur sans arrêt, de répéter 25 fois la même chose. Le Seigneur dit, écoute, ben, tu peux me le dire juste une fois, je ne suis pas sourd. Mais si ce n'est pas une prière de foi, je suis désolé. La prière de la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ça, notre but de marcher avec le Seigneur. Donc, ensemble, on peut juste s'encourager. Parce que, n'oubliez pas, on a tous un potentiel de perdre notre vocation. On a toute la chair encore. Protégeons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Veillons les uns sur les autres. Personne n'est à l'abri de perdre la vocation. Fait qu'ensemble, par contre, on peut se protéger puis se garder. Fait que Dieu voulant, la semaine prochaine, on va parler maintenant de la table où est-ce que les pains de proposition. Qu'est-ce que ça typifiait? Qu'est-ce que ça représentait? N'oubliez pas, le lieu saint, c'est le lieu de la communion. Et si on est pour rayonner dans le monde, le chandelier, on le veut aujourd'hui, deuxièmement, la table des pains, et troisièmement, l'autel de l'encens. Qu'on puisse voir ces trois types, ça, c'est l'Église. Et pour nous, maintenant, le voile est déchiré. Et on peut entrer dans sa lumière. Car la lumière est partie du monde, mais le Seigneur Jésus est parti s'asseoir sur son trône. Et là, on a accès au trône de grâce. On a accès à une lumière que le monde ne peut pas avoir. En d'autres mots, en dehors de vous qui connaissez le Seigneur et qui va continuer à développer votre communion avec lui, le monde ne peut plus trouver par lui-même le Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous sommes envoyés dans le monde pour aller annoncer la seule et unique bonne nouvelle dans le monde. Le monde ne peut plus trouver par lui-même. Puis même s'il y a des gens qui disent, non, moi j'ai entendu même des chrétiens rétrograder au point de dire, ben non, tout le monde va être sauvé à la fin. Tu fais là, toi, là? Non, je vous dis, il y a des gens qui ont dégénéré à ce point-là, qui disent que tout le monde va être sauvé. C'est pour ça qu'ils ne se donnent jamais aux autres, ils ne vont jamais évangéliser, ils ne vont jamais s'organiser pour sortir le message. Non, pour eux autres, pourquoi je gâcherais ma vie? Je veux dire, moi, là, je n'ai pas de temps à perdre avec les autres. Tout le monde va être sauvé, de toute façon. C'est un mensonge du malin pur et dur. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont vraiment, soit qu'ils sont aveugles quand ils lisent leur Bible, là, ou bien ils ne la lisent jamais. Deuxièmement, ce n'est pas la nature. Romains chapitre 1 nous rappelle simplement qu'un Dieu vrai et juste existe. Même des philosophes grecs non chrétiens ont déduit, en observant la nature, comme Socrate, qu'il doit avoir un Dieu final. Aristote lui a dit, il doit en avoir un qui est celui qui fait le premier mouvement des choses. Même si ce n'était pas exactement ce que la Bible dit, mais ce n'est pas grave. Ils sont arrivés à des déductions, puis même Platon a rappelé les paroles de Socrate. Et Socrate dit, non, un jour, il va avoir un jugement. Il va avoir un jugement, pas dans cette vie seulement. C'est trop facile pour beaucoup de gens d'éviter les conséquences des mauvaises actions qu'ils font aujourd'hui. Et pour lui, c'est comme ça qu'il déduisait que l'âme doit être éternelle et qu'il doit y avoir un jugement. Le gars, il n'avait même pas les Écritures, juste, mais il n'y avait pas la solution. La solution était en Israël, l'agneau de Dieu, en dehors de l'Église, et surtout que l'Église ne devienne pas corrompue par le monde. En dehors de l'Église qui vit du Seigneur, qui reçoit la sève du Saint-Esprit finalement dans le chandelier et qu'on s'illumine de la lumière que Christ met dans nos vies, le monde ne peut pas savoir comment s'en sortir. Ça ne me dérange pas de savoir que le journal a annoncé que 50 % de la province de Québec ne croit pas en Dieu. Plus ça va mal, mieux c'est le fun. Pas vrai, nos projets commencent toujours comme si on espère que ça marche, ça foire à tous les fois, et le Seigneur lui-même fait son œuvre après. Mais s'il y a 50 % qui ne croient pas, ça ne me dérange pas. De toute façon, même ceux qui croient en Dieu, est-ce qu'ils croient comme il faut? Les Juifs croyaient en Dieu. Les musulmans croient en Dieu. Il y a plein de religions qui croient en Dieu. Mais Jésus l'a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Est-ce qu'on est assez crédible pour pouvoir sortir le message? Que le Seigneur vienne à notre secours. En passant, je suis vraiment béni un matin de vous voir, c'est sûr, mais surtout de voir mon ami Marc, que je viens de remarquer en arrière. On a prié pour Marc longtemps, il est là, Marc de Courville. Pas bénissant! Fait que des bonnes choses s'en viennent. Et puis dans 100 ans d'ici, on n'aura plus de problème. Ça fait qu'on va continuer à prier pour discerner toujours les œuvres de Dieu, d'accord? Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on y marche. C'est juste en marchant dans ces œuvres qu'on va faire consumer finalement l'huile. Pour que l'huile puisse rentrer continuellement, il faut que la petite mèche brûle. Puis ce n'est pas la mèche qui brûle, c'est l'huile qui brûle. C'est quand il manque du Saint-Esprit que le chrétien brûle. Vous avez déjà remarqué vos petits fanales d'un fois en été, là, quand il n'y avait pas assez d'huile, ça devenait rouge, ça ne fait plus beaucoup de lumière, puis ça brûle. Donc, nous autres, les chrétiens, il faut rester trempés dans le Saint-Esprit continuel et que là, on brûle de la vie de Christ pour rayonner son seul espoir qu'il donne au monde. Il a dit à Israël, vous étiez le sel de la terre, mais vous avez perdu votre saveur. Le sel était un rappel d'une chose, selon l'Ancien Testament. Lévitique 2,13, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Ce n'est pas que Dieu mangeait du steak salé, là. C'est qu'il disait, parce que le sel est le signe de l'alliance. C'est le signe que j'ai fait alliance avec vous puis j'ai promis de venir sauver. L'Église, à plus forte raison, il nous a appelé aussi le sel de la terre maintenant, la lumière du monde. Mais si on perd notre saveur, est-ce que nous-mêmes, on continue à y croire et à bâtir notre vie là-dessus, sur le seul vrai fondement? Quand on met un fondement, Paul dit comme un architecte, j'ai mis un fondement, Christ. Maintenant, qu'est-ce que tu fais sur un fondement? Tu bâtis une maison. Et Pierre nous rappelle dans 1 Pierre 2 que nous sommes cette maison spirituelle qu'on se bâtit entre nous autres afin d'offrir des sacrifices à Dieu qui lui sont agréables. Comment on continue? Hein? Je vais me calmer. Fait que Seigneur, écoute Seigneur, on est devant celui qui dit, pour toi, il n'y a rien d'impossible. Non seulement tu nous as pardonné, racheté, et en plus, c'est quelque chose de vraiment bizarre, tu dis que tu vas venir faire ta demeure en nous. Seigneur, rends-nous conscients de ta présence en nous, afin que notre intimité avec toi se développe de plus en plus, que notre foi en toi soit de plus en plus grande, afin que, Seigneur, on soit vraiment des vrais témoins. Le monde aujourd'hui se nourrit de toutes les fautes que ton Église a faites. Comme te dit Israël, mon nom a été blasphémé parmi les nations à cause de vous. Mais c'est vrai, Seigneur Dieu, on va être honnête avec toi. L'Église en général, nous tous en général, on a peut-être servi à blasphémer ton nom. Et là, les gens du monde sont contents de trouver des excuses pour te cracher en plein visage, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, peu importe, sanctifie ton nom. Père, s'il vous plaît, sanctifie ton nom, glorifie le nom de Jésus. C'est le seul nom donné aux hommes par lequel ils peuvent être sauvés en l'invoquant. Père, fais de nous des gens qui ont une foi virile, s'il vous plaît. Et si on a besoin d'être réveillés, réveille-nous, Père. Réveille-nous, parce qu'un vrai réveil, ça commence par ton peuple, l'Église. Et il y a tellement besoin d'un vrai réveil au Canada, spécialement au Québec. S'il vous plaît, Père, il n'y a rien d'impossible pour toi. Réveille-nous si on est endormi. S'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ, pour l'amour de ton Fils. Et pour aussi l'amour de ta gloire. Ta gloire, tu l'as dit à Moïse, c'était quoi? Ta gloire, là, c'est de faire miséricorde à qui tu fais miséricorde. De faire grâce à qui tu fais grâce. Et c'est vrai que tu es un Dieu qui est capable de te contenir et tu es lent à la colère, car ça ferait longtemps que tu nous aurais totalement détruits. Alors, Seigneur Dieu, à toi toute la gloire de ton amour, de ta patience. S'il vous plaît, Saint-Esprit de Dieu, inonde-nous. Garde-nous sur ton contrôle, influence-nous, éclaire les yeux de notre cœur, afin qu'on puisse discerner la volonté de notre Père maintenant, collectivement et individuellement. Mon Dieu, je peux juste te remercier d'avance, car pour toi, rien n'est impossible. Amen. Que Dieu vous bénisse, bonne semaine.